Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Et donc nous sommes sur Sortir du capitalisme pour une nouvelle émission consacrée aujourd'hui
à une vie et une œuvre, celle de Henri Simon, qui est avec nous pour nous parler de sa trajectoire militante et aussi politique et théorique, depuis la résistance et socialisme ou barbarie jusqu'à aujourd'hui où il coanime encore le réseau qui produit un certain nombre de brochures très intéressantes, Échanges et Mouvements. Donc bonjour Henri Simon.
Oui, bonjour.
Alors tu es notamment l'auteur de 4 livres, dont un coécrit. Donc le 25 juin 1976 en Pologne, Travailleurs contre Capital, paru aux éditions Spartacus en 77. Ensuite, De l'antifranquisme à l'après-franquisme, Illusion politique et lutte de classe, donc avec un co-auteur, paru aux éditions Spartacus en 1979, et qui est extrêmement intéressant puisque ça traite de toutes les luttes dans l'Espagne post-franquiste, qui est souvent pas un épisode très connu. Ensuite, encore un livre sur la Pologne, qui s'appelle Pologne 1980-1982, Lutte de classe et crise du capital, également aux éditions Spartacus en 82. Et le dernier livre, c'est Grève des mineurs en Angleterre, To the Bitter End, mars 84-mars 85, aux éditions Acrasi en 1987, et qui parle de l'épisode assez connu de la grève des mineurs de charbon en Angleterre sous Thatcher. Donc, avant d'aborder donc ces différents ouvrages et puis également d'autres événements marquants, que ce soit notamment la révolution des conseils en 1956 en Hongrie, ou que ce soit pour parler d'une thèse que tu as commencé sur le refus du travail, ou encore des différentes organisations auxquelles tu as appartenu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton cheminement jusqu'à socialisme ou barbarie ?
Alors, mon cheminement est relativement simple. J'avoue que dans ce cheminement, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que mon enfance, entre les deux guerres, puisque je suis né en 1922, s'est déroulée dans l'abri, dans un milieu uniquement agricole, et où les divisions étaient très tranchées, mis à part quelques fonctionnaires, etc., entre les fermiers, les ouvriers agricoles, et ce qu'on appelle les classes moyennes, c'est-à-dire commerçants, artisans, etc. Tout le monde dépendait entièrement de l'agriculture. Et la division en classes était très nette. Je dois ajouter qu'il y avait une dominante qui était celle de l'Église catholique, qui était l'auxiliaire obligé, à un tel point que ma famille paternelle était une famille de mécréants, la seule du bourg d'ailleurs, un bourg de 1100 habitants. Et mon père était charpentier, et sa clientèle était une clientèle de fermiers. Il faisait surtout des hangars, qui est la partie attenante aux fermes à ce moment-là. Et pour pouvoir avoir la clientèle des fermiers, les 5 enfants que nous étions, nous avons été forcés d'aller au catéchisme, etc., uniquement pour que mon père ait du boulot. Donc, ça donne une idée de l'emprise. C'était l'auxiliaire de la domination idéologique dans, à cette époque-là, dans les campagnes. Assez rapidement, c'est à travers ma mère surtout, j'ai eu conscience de cette division en classe, c'est-à-dire ouvrier agricole, profession libérale, fermier, plus quelques notables. C'était le notaire, le vétérinaire, le médecin, c'était eux d'ailleurs qui formaient la représentation politique la plupart du temps, pas la classe moyenne des commerçants. Et j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Ma mère était très ouverte et avait une grande connaissance à la fois littéraire, mais elle aussi peu à peu politique. Par exemple, quand il y a eu la guerre d'Espagne, elle a collecté des habits, des choses comme ça, pour les républicains. Maintenant, politiquement, l'EPC était considéré comme le parti qui était le parti révolutionnaire, entre guillemets. C'était l'image d'Épinal du PC d'alors. Finalement, la division en classe se résumait curé, pas curé, PC, pas PC, etc. Le PC n'avait pas beaucoup d'influence. Ça a commencé après 1936. Moi, j'ai assisté à la première grande manifestation. Alors, déjà, les classes moyennes étaient laminées et il y avait des mouvements fascistes qui perçaient, notamment au moment de Bleu de 1936. Moi, étant môme, en 1936, j'avais 14 ans, et j'ai vu l'organisation de commerçants d'extrême droite qui brûlaient Blum en étigie dans Féchis, dans le cimetière. Tu vois. Et en 1936, la métallurgie PC de la CGT avait organisé une journée d'été. C'était la première grande manifestation que j'ai vue. Ils ont défilé dans le bourg, en masse, il y avait, je sais pas, peut-être un millier de manifestants, chose que je n'avais jamais vue, tu vois. Donc, la politique, elle pénétrait inévitablement. Et puis après, il y a eu la montée vers la guerre. D'un autre côté, bon, j'ai poursuivi des études, mais d'une manière un peu particulière, parce qu'à l'époque, même dans un bled qui était chef-lieu de canton, il y avait juste une école primaire, deux écoles primaires. Ségrégation, une de filles, une de garçons, et chacune avec deux classes. Donc, pour poursuivre des études secondaires, si on n'avait pas de pognon, bon, il n'y avait pas de moyens de transport, il y en avait, mais qui étaient complètement inadéquats pour le lycée. Le premier lycée était à 15 km, il n'était pas question d'y aller. Sauf un internat, fallait payer. Avoir des bourses, c'était impossible parce qu'on n'avait pas de préparation pour ça. Il y avait, par contre, à une dizaine de kilomètres, ce qu'on appelait un cours complémentaire. Et ce cours complémentaire était une sorte de formation pour les instituteurs, et parce que ça préparait au concours d'entrée à l'école normale, et aussi pour des techniciens moyens, etc. C'était un cul-de-sac, parce que l'aboutissement, c'était le brevet élémentaire, qui était beaucoup plus important au point de vue connaissance que le brevet élémentaire d'aujourd'hui, mais basé uniquement sur la mémoire. J'avoue d'ailleurs que les connaissances que j'ai accumulées de cette période-là, sur un peu tout, même si c'est purement mémoriel, j'ai dans ma tête toute une documentation qui m'a servi beaucoup plus tard. Toujours est-il qu'en 1939, j'ai passé le brevet. Je voulais pas aller à l'école normale parce que ma mère avait dû prendre sa retraite anticipée parce que élever 5 mômes et faire des cours et mon père qui l'aidait pas beaucoup. L'aboutissement, ça a été qu'elle a dû prendre une retraite anticipée. Elle a eu une sorte de dépression nerveuse, si on peut dire. Donc elle a dû quitter l'enseignement et pour moi, l'enseignement conduisait à ça, tu vois. Donc je voulais pas être enseignant, j'aurais pu hein, si j'avais voulu. Donc la question, comme j'avais des inclinations pour les sciences, et notamment la chimie, les choses comme ça, j'ai entré dans une école qui formait ce qu'on appelait à l'époque des techniciens de laboratoire, des aides-chimistes quoi, en quelque sorte. Et cette école était à Paris. Donc en 1939, au moment de la déclaration de guerre, je devais entrer dans cette école à Paris, ce qui supposait que je vienne à Paris. Et tout. Alors, je vais te faire grâce de toute cette période-là, parce que, au point de vue politique, j'ai pas mal de vicissitudes. Hein, parce que j'ai vécu en 1939 à Paris, j'ai vécu l'Exode. Après l'Exode, j'ai retourné un peu à l'école, mais étant donné ce que j'avais subi pendant l'Exode, je suis tombé tuberculeux. J'ai été soigné, et pendant toute la guerre, ça consistait à me récupérer au point de vue physique et au point de vue intellectuel, au point de vue social, j'ose dire. Parce qu'à l'époque, la tuberculose, avoir été tuberculeux, on était un proscrit. À la Libération, j'avais été sollicité vers la fin à faire partie de l'espèce de comité clandestin de résistance. Mais à l'époque, bon, l'influence que j'avais, c'était toujours l'influence, ce que je disais tout à l'heure, du PC. Quand il y a eu la Libération, j'ai fait partie du comité de libération et j'ai même été secrétaire de ce comité de libération. Mais sans option politique bien précise, tu vois, pas de patriotisme, parce que du côté de ma mère, m'insufflait plutôt une sorte d'internationalisme qu'un nationalisme quelconque. Et le problème qui s'est posé à l'issue de la guerre, ça a été que faire. Alors, j'avais suivi pendant la guerre, j'étais pas resté inactif en quelque sorte. D'une part, j'aidais mon père dans son boulot, ce qui peut être une récupération physique. Et on aidait le paysan du coin qui est juste en face de chez nous à faire les moissons, les choses comme ça. Et d'un autre côté, j'avais pris des cours par correspondance et j'ai passé le bac par correspondance. Bac philo et puis après bac maths. Donc, la question se posait pour moi, qu'est-ce que j'allais faire doublement, à la fois au point de vue travail, il fallait que je trouve un boulot, parce que à la fin de la guerre, en 1945, j'avais déjà 23 ans, donc je ne voulais pas rester à la charge de mes parents éternellement. Et politiquement, les choix étaient toujours, c'était pas vraiment un choix, j'avais une sympathie pour le PC, sans formation particulière et sans connaissance particulière de la théorie politique et de tout ça. C'était uniquement plus sentimental, je dirais, que, bon, et puis s'appuyant sur la division entre classes que j'avais vue dans mon enfance. Parce que la condition des ouvriers agricoles était terrible pour ça. Si on avait les yeux pour voir et comprendre, on se rendait compte qu'il y avait une classe d'exploités, que ça existait. Quand j'ai cherché du boulot, déjà, il y a des professeurs qui corrigeaient les trucs d'enseignement par correspondance, qui m'a fait venir à Paris et qui m'a dit, écoutez, je vois que vous avez des qualités. Si vous voulez poursuivre des études de sciences et de physique, je vous soutiens, je vous aide, etc. Et j'ai refusé pour deux raisons. D'une part, ça signifiait d'être toujours à la charge de mes parents. Et d'autre part, question de santé, revenir à Paris, ça me paraissait assez aléatoire. Le système de privation, de rationnement existait toujours quelques années après la Libération. Les choses ne sont pas mises en place tout de suite. Donc, de ce côté-là, bon, j'ai cherché du boulot. À ce moment-là, j'ai été un truc d'orientation professionnelle. J'aurais expliqué ma situation. Et ils m'ont dit, écoutez, faites du droit. Je ne savais pas trop où ça m'emmènerait, etc. Toujours est-il, je me suis inscrit par correspondance, toujours, à la faculté de droit de Paris. Et bon, alors, curieusement, j'ai pris comme option le droit du travail. Tu vois déjà certaines préoccupations qui pouvaient m'orienter, si tu veux. Et puis, quand j'ai cherché du boulot, j'ai refusé un boulot dans une boîte parce que j'ai senti qu'il me fourrerait dans la direction d'une entreprise métallurgique et je ne voulais pas être dans des trucs de direction. Donc, tu vois, j'avais déjà des choix. Toujours est-il que par relation, je suis entré comme employé dans cette boîte d'assurance où je suis resté pendant 25 ans. Entrer dans une boîte d'assurance, pour moi, entrer dans le boulot, il n'y avait pas de problème, j'ai adhéré à la CGT tout de suite. Et puis, comme celui qui était secrétaire de la section partait à la retraite, on a sympathisé, il m'a dit, ouais, quand je prends ma retraite, tu prends ma succession. Donc je suis devenu secrétaire de la section CGT de la boîte. Mais je n'étais pas copie conforme, si tu veux, par rapport à ce que les gens ne s'imaginent pas aujourd'hui et quelle était la domination de la CGT, du PC à la Libération. Le PC récoltait entre 30 et 40% des voix aux élections. La CGT était dominante un peu partout dans les entreprises et contrôlait assez strictement. Et moi, j'avais spontanément une certaine conception de l'action syndicale qui était la défense de ceux que les autres syndicats appelaient les indéfendables, c'est-à-dire ceux qui transgressaient, parce que je cite toujours comme exemple que la carte syndicale de la CGT disait « tu dois être le meilleur à ton boulot ». Et là, il y avait une morale du travail qui était imposée à travers les syndicats, notamment devant la CGT, et tous ceux qui transgressaient cette morale étaient les indéfendables. Or, les résistances au travail se font d'abord par rapport à ce type de canal. Bon, déjà pour dire que Gervais dans les brancards, j'étais pas conforme. Et finalement, l'aboutissement de ça, c'est que vers 52-53, et ça indépendamment de mon orientation vers SB, j'étais exclu du syndicat, pratiquement. Ils ont essayé de dresser la section contre moi et la section m'a soutenu entièrement, mais ils m'ont exclu par des moyens détournés. Bon, ça fait grâce. Il y a des méthodes bureaucratiques qui sont très experts là-dedans. Toujours est-il, je considère que politiquement, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que quand j'étais secrétaire de la section, il y a un gars qui était à ce moment-là au service militaire et qui est revenu du service militaire. Et c'était un gars de mon âge qui faisait partie de socialistes dans Paris, qui avait été trotskiste, qui était parti dans la scission de SB, et avec qui j'ai eu des discussions. Tu vois, j'aurais été ou dans un anarchiste traditionnel ou tombé sur un trotskiste. Il aurait fallu que je fasse un cheminement. Là, d'emblée, je suis tombé dans une critique du système qui correspondait finalement à ce que je connaissais sur le terrain. Tu vois, cet affrontement dont j'ai parlé avec la CGT en arrière-plan avec le PC, la critique de SB tombait à pic par rapport à ce que j'avais déjà senti. Donc c'est comme ça, je pense que j'ai eu de la chance, parce qu'autrement, il aurait fallu que je franchisse des étapes, et le propre de certains courants, certaines organisations, c'est de t'engager assez profondément pour qu'il soit difficile pour toi de te débarrasser. Et là, d'emblée, j'ai évité tout un cheminement. Et bon, c'est le hasard, hein, parce que d'emblée, je suis tombé dans une critique déjà et du système russe et une certaine forme de critique de la société dans son ensemble.
Tu vois. Oui, donc tu as rejoint Socialisme ou Barbarie en 52-53, très rapidement, du coup, ce qui caractérise le socialisme ou barbarie, c'est notamment le fait de faire une critique de l'URSS comme une domination bureaucratique de classe.
Oui, c'est ça, oui.
Et également le fait que le projet, du coup, de dépassement du capitalisme ne passe pas par...
Socialisme d'État, pas capitalisme d'État. Donc.
Mais par le communisme de conseil.
Oui, alors... Là, justement, à travers SB, j'ai eu rapidement, parce que SB avait eu des contacts avec différents groupes étrangers, dont le groupe hollandais Actes et Pensées, qui était un groupe communiste de conseil, un des derniers groupes communistes de conseil, et le copain qui était l'animateur de ce courant, Caillou Brendel, est venu à Paris, on s'est rencontrés, on a sympathisé, et c'était le début d'une longue amitié, à l'amitié tout court et amitié politique qui a duré jusqu'à sa mort. C'était un des piliers de ma formation, c'était lui. Et l'autre pilier, c'était un gars qui avait fondé dans l'entre-deux-guerres un groupe oppositionnel qui s'appelait l'Union communiste. Son surnom de guerre s'est chassé et son vrai nom c'est Davous. Et lui c'est pareil, je ne l'ai pas connu à Paris. Le copain qui m'avait fait entrer à SB était en contact avec lui. Et après, comme il a évolué d'autres, c'est moi qui ai pris le relais. Et après, pendant très longtemps, je passais une semaine chez lui. Il était à Grasse, près de Grasse, parce qu'il avait dû quitter Paris pour des raisons de santé. Il avait été déporté. Toujours est-il que mes deux piliers de formation politique, c'était d'une part ce copain hollandais communiste de conseil et ce copain chassé, qui avait été oppositionnel communiste pendant les deux guerres.
Et justement, quand tu rentres en 1953, il y a
les événements de l'Allemagne de l'Est. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ces événements et surtout quelle a été l'analyse de Socialisme barbarique?
L'analyse est surtout venue à travers un copain qui était très sympa, qui était un émigré, je crois, roumain, qui s'appelait Sternberg. Et c'est lui qui a amené les analyses sur ce sujet-là. Bon, ça correspondait d'une certaine façon à ce que Socialisme barbarique défendait, que c'était une classe, que la bureaucratie russe dominait le travail exactement comme le capital pouvait dominer les ouvriers ailleurs, et donc que l'insurrection ouvrière était bien la preuve que les travailleurs étaient exploités et puis se soulevaient contre le système. Mais ça n'a pas eu l'impact à ce moment-là que la Hongrie 56 a eu.
Et justement, est-ce que tu peux parler justement de ce qui s'est passé en Hongrie en 1956?
Alors, il y a eu quelque chose de curieux à ce sujet de barbarie. C'est qu'il y a eu des tentatives de Castoriadis d'avoir des liens avec Pankouk, qui vivait encore. Et qui était il y a eu le début d'une correspondance. On a fait une brochure, d'ailleurs, à ce sujet-là.
Qui est le théoricien donc du communisme de conseil.
Oui. Et donc, il y a eu un début de correspondance. Et Pankouk devinait que Castoriadis et une bonne partie de SB étaient encore sur des positions plus ou moins léninistes, tu vois, encore pour le parti, etc. Et il ne parlait pas des conseils, parce que c'est ça qui est très curieux, parce que même après 1953, ce sous-barbarie, dans l'impio, j'avais des contacts étroits avec le copain qui m'avait fait entrer, des contacts étroits avec les communistes conseils hollandais. On s'est peint un peu, par ironie, Castoriadis nous appelait l'œil d'Amsterdam. On a essayé d'impulser SB à prendre cette orientation. Ça a toujours été refusé. Curieusement, ils n'ont parlé des conseils qu'après 1956. Avant, les conseils allemands, tu trouves trace nulle part dans ce sous-barbarie des conseils allemands des années 1920 et des soviets russes non plus. Tu ne trouves absolument aucune trace, pas plus que du mouvement, sauf quelques textes qu'on a fini par imposer à être publiés dans ce sous-barbarie. Mais ce sous-barbarie fait l'apologie des conseils après 1956. Alors ça rejoignait la théorie de Castoriadis, qu'il a poursuivie pendant longtemps, que la bureaucratie russe, il n'appelait jamais le terme capitalisme d'État. C'était un système qui était l'avenir du capitalisme. Ça a toujours été, pendant très longtemps, sa théorie. Et donc, ce qui se passait, étant donné que c'était l'avenir du capitalisme, les luttes qui se passaient là, c'était la prémonition de ce qui allait se passer dans le capitalisme. Donc, il ignorait des conseils qui avaient pu exister avant, et l'insurrection hongroise a été magnifiée parce que c'était la première grande révolte dans un système bureaucratique dans lequel il voyait l'avenir. Donc, cette lutte-là, pour eux, était le modèle.
Il était normalement dans une application un peu stricte de la théorie des phases, de l'évolution des modes de production, donc le capitalisme, ensuite le socialisme, donc la bureaucratie soviétique, et ensuite, du coup, finalement, la révolution hongroise était la prémonition du communisme, en fait.
Oui, c'est ça.
D'accord. Et du coup, donc voilà, 1956 en Hongrie, ça a été un moment très important. Est-ce que vous avez consacré particulièrement des analyses à ça ou...
Bah, il y a eu celle de SB, il y a eu pas mal d'analyses, mais enfin... Pour voir ce que ça a été. Les conseils hongrois, ça a duré une semaine. Ça a été aussitôt écrasé dans le sang. Et elle n'a pas pu, même s'ils ont fait des conseils, ça a eu cette forme-là, mais c'était surtout des conseils de lutte qui ont été écrasés tout de suite. Il n'y a pas, et c'est ça d'ailleurs qui est assez extraordinaire, c'est s'en servir pour monter une théorie qui ne s'est pas exprimé dans les réalités. Il n'y a pas eu le temps d'organiser quoi que ce soit, sauf la lutte contre l'emprise, l'intervention russe. En dehors de ça, il n'y a pas eu d'élaboration théorique ni concrète des conseils hongrois. C'était impossible.
Mais ça a provoqué pas mal de changements intellectuels.
Oui.
Et donc, peu de temps après, donc il y a la survenue notamment de la guerre d'Algérie, et en 1958, ça a provoqué pas mal de débats.
La guerre d'Algérie, d'une certaine façon, il y a eu des grandes grèves en France, 1953-1955, des grèves importantes. D'ailleurs, j'ai écrit mes premiers articles dans ce Souvent Paris, c'était sur ces grèves-là. Et quand la guerre d'Algérie, c'est un intermède d'une certaine façon. Il n'y a pas eu de lutte dans toute la période jusqu'en 62. Il n'y a pas eu de grande lutte parce que tout était centré autour de la lutte contre la guerre d'Algérie et la fin de la guerre. Et la préoccupation des groupes était essentiellement ça. Alors, quand il y a eu le coup d'État de Gaulle, qui s'est appuyé sur les pieds noirs d'Algérie, la partie de l'armée qui soutenait la position de l'Algérie française. De Gaulle a utilisé habilement ce truc-là, ce qui d'ailleurs lui a valu une haine de toute l'extrême droite française, où ils ont essayé plusieurs fois de le descendre. La crise politique, à ce moment-là, qu'il y a eu avec celui... En 56, il y a eu des élections, et les sociaux-démocrates avec Guy Mollet se sont fait élire sur la base de faire la paix en Algérie. Or, Papi est arrivé au pouvoir et quand il essayait de mettre en place les premiers prémices d'une orientation vers une paix en Algérie, vers l'indépendance de l'Algérie, aussitôt il y a eu une éruption de violence, etc., en Algérie, et Mollet a capitulé. Et c'est ça qui a créé la crise de 58. C'est cette capitulation alors qu'il était élu pour faire la paix en Algérie. Et il y a eu la conjonction aussi avec le mouvement des classes moyennes.
Ah oui, le poujadisme.
Poujadisme, la concentration des campagnes aussi, parce que ça, on oublie souvent que le remembrement
60,
60 et la mécanisation, c'est 50 des campagnes, etc., a éliminé le petit commerce de ville. Parce que les ouvriers agricoles sont partis en usine, ils ont quitté les campagnes, il y a eu un exode rural très important, et il y a eu une désertification. La première désertification des campagnes était à ce moment-là très importante. Et ceux qui en ont pris le plus, c'est les petits commerçants, les artisans, qui dépendaient de l'agriculture. La fin du cheval, par exemple, représentait la fin de tout du petit commerce local. Qui vivait de ça, depuis le charron jusqu'au cellier, on oublie tout cet aspect. Et il y a eu une conjonction des dernières résistances à cette désertification des campagnes avec cette montée de la guerre d'Algérie.
Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a eu tout un débat autour de l'interprétation de 1958, où Cornelius Castoriadis, lui, avait plutôt l'analyse qu'en fait c'était une fascisation rampante, ouais. Et toi, tu défendais plutôt l'idée que de Gaulle était arrivé pour mettre fin à la guerre.
Ah, exactement, parce qu'il y a eu une fausse interprétation qui n'a pas duré longtemps, mais qui a duré quelques mois. Ce Sous Barbarie, qui était axé sur l'opposition à la guerre, a vu affluer... alors que jusqu'à ce moment-là, on était dans des réunions à peine une douzaine. Hein. C'était pas grand-chose, SB. Il y a eu un afflux, tout d'un coup, il y a eu 100 personnes, et essentiellement étudiants, qui venaient pour se battre contre la guerre à cause de la révocation des sursis. Tout le monde sait ce qu'étaient les sursis, c'est qu'on faisait des études. On était dispensé du service militaire jusqu'à la fin des études. Et donc, il y a eu révocation des sursis, ce qui faisait que les étudiants devaient partir immédiatement à la guerre. Donc, il y a eu une résistance importante dans le milieu étudiant à cause de ça. Et donc, ce Barbarie a vu affluer des étudiants, et une masse de gens qui n'étaient pas politisés spécialement, donc qui étaient prêts à être les petits soldats de Castoriadis. Et l'interprétation, pendant quelques mois, c'était que de Gaulle, dans la mesure où il s'appuyait qu'il avait été âgé en levant les bras, disant à toute l'assemblée dans la rue, je vous ai compris, l'idée qu'il allait épouser les thèses facho, effectivement, de toute opposition d'extrême droite algérienne, dans l'armée et des colons algériens. Et donc, il y a eu pendant quelques mois l'idée de ça. Et dans l'avion, on s'opposait à ça. Moi, je me rappelle, il y a eu une assemblée, une première grande assemblée où Castoriadis a imposé ses idées. Moi, j'ai essayé de dire, c'est pas vrai. Je me suis fait traiter de lâche, que je refusais de me battre. Tu vois. Mais pour eux, c'était essentiel. Donc, l'idée, c'était, il va y avoir un régime fasciste, et il y aura une révolte ouvrière contre ce régime, donc il faut être là, donc il faut s'organiser. Bon, il y avait les troupes pour ça, donc s'organiser, il y a eu un schéma d'organisation qui était de type léniniste, avec comité responsable, tous les trucs qu'un schéma léniniste peut contenir. Donc on s'est opposé à ça, à quelques-uns, dont le fort, et on a été plus ou moins exclus des méthodes bureaucratiques traditionnelles, des scissions, du refus de communiquer quoi que ce soit. Bon.
Et du coup, c'est à ce moment-là que vous créez donc Information et Liaison Ouvrière, oui. Et puis qui va devenir Information et Correspondance
là,
Ouvrière.
C'est toute une histoire, parce qu'en même temps, en juillet 1958, il y a eu une réunion de tous les groupes d'entreprises. Il y avait des petits noyaux d'entreprises oppositionnels à la domination de la CGT, qui préexistaient déjà. Certains qui étaient animés par des trotskistes, d'autres indépendants. Il y a eu une réunion à la Bourse du Travail en juillet 1958. Ça a été un échec, parce que chacun venait avec l'idée de créer son organe ouvrier. Toujours est-il qu'on s'est trouvé un nombre assez restreint de camarades, et que venant d'horizons différents, les uns noirs et rouges, d'autres du groupe de Maximilien Rubel sur le socialisme de conseil, d'autres, tu vois, qu'on ne voulait pas s'intégrer dans tous ces trucs-là. Et on s'est retrouvés à faire des réunions qu'on a coupées au départ très modestes, qu'on a appelées réunions inter-entreprises, qui s'est étoffée peu à peu, et qui a fait un bulletin propre, et qui s'est un peu autonomisé par rapport à ILO, qui était un cercle d'intellectuels, qui vivait surtout sur l'opposition à la guerre. Alors que le regroupement d'entreprises, on s'intéressait aux conditions ouvrières de chacun. Et les choses ont peu à peu, il y avait juste un ou deux du regroupement qui allait aux réunions d'ILO, mais il y avait très peu des intellectuels qui participaient aux réunions d'ILO. C'est uniquement un groupe ouvrier employé, de salariés d'entreprise. Et quand la guerre d'Algérie s'est terminée en 1962, le groupe ILO a complètement disparu et le groupe inter-entreprise s'est érigé en ICO, Information Correspondance Ouvrière.
Qui est un peu l'ancêtre des changés mouvements.
Qui est l'ancêtre des changés mouvements. Avec la reproduction d'une situation un peu similaire en 68.
Oui, et justement, par rapport à 68, tu as parlé notamment des liens que tu avais tissés avec Noir et Rouge, donc un groupe anarchiste, avec Maximilien Rubel. Est-ce que tu pourrais parler rapidement de tes liens, justement, conflictuels avec l'international situationniste?
Alors, bon, il y a eu AICO, on cohabitait. Certains appartenaient à des groupes, tu as cité Noir et Rouge, le groupe de Rubel, et puis d'autres à aucun groupe, qui s'est étoffé petit à petit, tu vois, parce qu'au départ, on était peut-être une dizaine, et puis vers 66-67, on était quand même entre 30 et 40, tu vois. Et on a attiré quelques intellectuels aussi qui sont venus, Daniel Saint-James, Brissanier. J'ai toujours essayé de garder des contacts internationaux. On a eu des contacts internationaux avec Caillou Brendel, le groupe Hollande comme conseil, ça toujours, avec Chazé, le copain du Mouti, et aussi peu à peu avec le groupe anglais Solidarité. Et curieusement, parce que le groupe Solidarité était lié à ce sujet barbarie, mais il y avait quand même, tu vois, ils avaient la même orientation qu'on pouvait avoir en France. On a intéressé les situs à l'approche de 68. Quand ils ont sorti la brochure de la misère en milieu étudiant avec l'affaire de Strasbourg, le seul groupe qui est mentionné, c'est ICO. Dans une petite note, dans un bas de page, je ne sais pas si tu as lu, dans un bas de page, mentionné ICO. Avec déjà une première accusation qu'ils vont reprendre, c'est on est pas mal, mais on est inactif. parce qu'on refuse de faire, on a toujours refusé de faire une propagande quelconque dans une orientation. On pense que les travailleurs doivent trouver eux-mêmes leur forme d'organisation, la déterminer eux-mêmes, et que ça ne doit pas faire l'objet d'une propagande. Bien sûr, on faisait de la littérature, on parlait des conseils, etc. Mais néanmoins, chacun était actif dans son entreprise et militait sur les bases de sa boîte, mais sur une base globale, on s'est toujours refusé à ça. Ça reste toujours ma position actuellement. Toujours est-il que dans la mesure où ils voyaient qu'on avait quelque chose qui les intéressait, on a commencé à faire en 67 des réunions internationales, des réunions nationales et internationales, parce qu'il y avait quand même un certain nombre de personnes qui pouvaient venir, qui étaient intéressées. Et donc, ils ont envoyé un gars qui s'appelle Le Glou, qui a essayé d'imposer des orientations, des trucs. Bon, puis ça n'a pas marché. Juste au moment de l'affaire de Nanterre, ils ont envoyé, parce qu'on avait contact à travers Noir et Rouge avec certains éléments comme Bendit, Duteuil, etc., qui étaient à Nanterre à ce moment-là. Certains sont venus à des réunions d'ICO pour expliquer simplement ce qu'ils faisaient à Nanterre. Les situs qui étaient à Nanterre, dont Yézel, sont venus avec des copains à réunion pour dire, nous, on a une autre explication, pour donner une autre explication.
Le point de vue des enragés.
Le point de vue des enragés. Donc on les a acceptés, ils ont fait leur truc. À un moment, ils sont venus en force pour essayer de faire ce qu'ils faisaient en général dans les groupes, essayer de les faire éclater. On leur a dit, il n'y a pas de problème, vous prenez les réunions d'ICO une fois sur deux, ce sera vous, une fois sur deux, ce sera nous. Et le contenu d'ICO, une fois sur deux, ce sera vous, une fois, ce sera nous. Alors ça, comme ça ne correspondait pas du tout à ce qu'ils rêvaient, ils sont sortis en claquant la porte, en disant, j'ai les paroles mémorables de Riesel, ça retombera sur la gueule. Retomber sur la gueule, c'était un article incendiaire dans le prochain IS, parce que d'un côté, tu as eu un premier article qui était louangeux, puis après, tu as eu un article où ils descendaient en flammes.
Oui, c'est les pratiques habituelles.
Parce qu'ils n'étaient pas arrivés à leur fin. Ils ont été déroutés. On leur dit, d'accord, vous prenez possession du truc une fois sur deux, et nous, une fois sur deux, et vous faites ce que vous... Ça, c'était pas...
Et peut-être rapidement, les gens d'ICO, est-ce qu'ils ont eu un rôle particulier pendant mai-juin 68
Alors là, leur rôle, c'était de lutter dans leur boîte. On n'avait pas d'instructions à leur donner, chacun luttait. D'ailleurs, on retrouve la trace de ça dans les numéros d'ICO du dernier semestre 68. On a demandé à chacun de raconter, tu trouveras le témoignage de ce qu'ils avaient fait respectivement dans leur boîte respective. Il n'y a que le copain de chez Renault qui a pu rien faire, parce que dès qu'il a essayé de l'ouvrir un petit peu, il était coincé par les sbires de la CGT qui lui ont dit, si tu continues à faire ce que tu fais, on te retire ta carte et on te fout dehors. Tu ne rentreras plus dans l'usine.
C'est intéressant, justement. finalement, ça montre bien tout ton cheminement et aussi le rôle que vous avez eu dans mai 68, que justement, ce qui vous distinguait de l'international situationniste, finalement, c'était le refus d'être une avant-garde.
Exactement, oui. Bien qu'on en soit une sur notre travail. Avant-garde au sens traditionnel militant.
Ce serait intéressant, puisque maintenant on a globalement fini avec la période d'avant 68, de parler un petit peu de la thèse que tu as voulu faire, donc que tu as commencé en 1973 autour de la question des résistances au travail, du refus du travail.
Oui, alors tout ça recoupe un peu ma vie personnelle, dans ce sens que dans les réunions internationales qu'on a faites, j'étais assez lié avec un gars de solidarité qui était à peu près sur nos positions au point de vue de la lutte de classe. Et dans la mesure où Solidarité, à un moment donné, a repris les idées de Castoriadis, mais deuxième version, c'est-à-dire l'abandon du marxisme, etc., etc., n'a pas accepté cette mutation de Solidarité et a fini par être exclu de Solidarité. Et on avait eu contact avec lui dans des réunions internationales, parce que autant Solidarité venait aux réunions nationales et internationales d'ICO, autant il nous invitait à leurs réunions en Angleterre. Et à ce moment-là, quand il a été exclu, ça a correspondu à la fin d'ICO, et il a été un des fondateurs d'Échanges. Ça a suivi une réunion internationale qui s'est tenue à Boulogne, et c'est là où sont élaborées en quelque sorte les positions d'Échanges. Les trois piliers, c'était ce copain, George Jacobs, Caio Brendel et moi. C'était les trois piliers, chacun ayant un groupe derrière lui, plus ou moins. Que George Jacobs n'était pas seul, il était sorti avec d'autres. Donc le départ d'Échanges, ça a été ça. C'était un peu un groupe international dès le départ.
Et les positions de base, du coup, c'était quoi les positions de base?
La base, c'était la lutte de classe est essentielle, et c'est ça. Et c'est que plus ou moins communiste de conseil, si on arrive. À l'époque, je me suis trouvé licencié économique. On avait droit à, si on faisait une formation, on avait droit à un an plein salaire, qui pouvait être prolongé par un an plein salaire. On pouvait tirer à peu près 3 ans plein salaire sans rien faire. Donc j'ai pris cette voie-là, et pour formation, je me suis inscrit en fac, en sociologie, pour faire une thèse sur le refus du travail. Bon, j'ai été admis tout de suite pour faire ce travail-là, etc. Et j'ai commencé à accumuler une documentation, etc. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas les journaux de l'ultra-gauche qui parlent beaucoup du refus du travail, c'est les traités de sociologie du travail. C'est les recherches qui sont faites, payées par les entreprises, pour essayer de déterminer comment vaincre les résistances au travail. Et ça, personne ne va chercher beaucoup là-dedans. Par contre, c'est une vraie mine. Bon, ça tourne autour d'absentéisme, sabotage, etc., etc. Et c'est une vraie mine de documents. Parce qu'ils parlent de la manière de combattre, ils décrivent les cas concrets, justement, et chiffrés et tout ce qu'on veut. Toutes les formes possibles et imaginables de détournement, et qu'en général les syndicats négligent et considèrent que ce n'est pas la lutte, alors que pour moi c'est la lutte de base contre l'exploitation. Par exemple, tout le monde regrette 5 minutes à la fin du travail sur le travail, multiplié par le nombre d'employés, ça fait une somme énorme. Ils évaluent que les formes de résistance au travail font plus de mal aux entreprises, au point de vue productivité, que toutes les grèves réunies. Dans les magasins, par exemple les grands magasins, ce qu'ils appelaient la démarque, ils savent très bien, ils intègrent dans l'évaluation des coûts un truc qu'ils jugent qui est irrépressible, qui est la fraude sous toutes ses formes, par les employés, hein. Oui. Pas le vol des clients. C'est pour ça qu'ils sont très stricts de temps en temps. Tu vois dans les boîtes un employé qui est pénalisé parce qu'il utilise un bon de réduction, des conneries comme ça. Mais parce qu'il faut endiguer à tout prix l'utilisation par les caissières, tout ça, qui passe un truc sans faire payer un copain. Enfin, tout un tas de pratiques qu'on n'ébruite pas, et pour cause. J'avais un fichier énorme que je n'avais pas encore exploité. Malheureusement, sur ces entrefaites, j'ai été à Londres. Je suis installé dans un truc collectif. On a acheté une maison collectivement. Et j'étais le premier à m'y installer, c'était encore rudimentaire, et il y a eu un cambriolage, ils m'ont emporté mon fichier. Ce qui fait que j'ai dû abandonner, j'avais plus rien du tout, j'ai pas eu le courage de recommencer.
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, la résistance au travail n'est pas propre à des moments historiques,
oui,
mais qu'elle est généralisée.
Elle est constante et générale.
Consubstantielle du rapport de classe, presque.
Quand il y avait le pointage, par exemple, avec des cartes magnétiques, etc., bon, les gens pointaient, puis sortaient au bistrot, puis rentraient après. Quand c'était possible, chacun utilisait les failles dans le système de contrôle. Bon, ils ont trouvé la parade, c'est que maintenant, tu es censé commencer à bosser quand tu ouvres ton ordinateur. Tu vois, ils ont trouvé la parade à ça. Tu peux entrer dans la boîte, pointer, ça ne fait rien à l'histoire. Tu es considéré comme présent à l'heure où tu ouvres ton ordinateur. Mais même là aussi, ils peuvent truander, il y a 36 000 moyens, c'est une lutte constante, c'est la lance et le bouclier, si tu veux.
C'est intéressant, en fait, toute cette question de la résistance au travail, auquel on a consacré pas mal d'émissions, parce qu'on voit finalement que
derrière une adhésion apparente au travail et au capitalisme, finalement, les individus...
Même le mec qui fait l'apologie du travail, qui dit « je me plais au travail », etc. S'il a un problème personnel qui va le contraindre à enfreindre la règle, il va l'enfreindre, sans se rendre compte qu'il contredit ses positions.
Oui.
Et ça, c'est des choses que tu vois couramment. Je me souviens, par exemple, dans la boîte où je bossais, bon, il y avait deux escaliers. Il y avait l'escalier direction, il y avait l'escalier, c'est un immense immeuble, et l'escalier de service. Les employés passaient par l'escalier de service. La fin du boulot, c'était 5h30. Dès 5h25, ça dure au moins 5 minutes avant, t'avais une cohue dans les escaliers, ils avaient quitté le boulot. Normalement, t'aurais dû bosser jusqu'à 5h30. Mais 5 minutes de travail multipliées par 2000 employés, ça fait 10 000 minutes de travail. Et ça, renouvelé quotidiennement, la productivité en prend un coup. C'est qu'un exemple. Il y avait l'utilisation de tout un tas d'astuces pour éviter de bosser, simplement. À l'époque, tu commandais du matériel. À l'époque, il y avait encore des crayons, du papier, des trucs comme ça. À l'époque de la rentrée scolaire, il y avait une commande de matériel qui montait en flèche, parce que les parents de mômes commandaient des trucs pour le sortir. C'est rien, mais multiplié par le nombre, ça finit par crever les poings. Je l'ai même moi-même fait. Quand j'ai été licencié de la boîte, il y a un gars de l'Economa, c'est du service, qui m'a dit « t'amènes une valise ». J'ai amené une grosse valise, il m'a rempli la valise de matériel. J'avais plein de trucs que j'ai même pas tout consommé. Et il y avait des complicités aussi, parce que lui, il avait déposé chez le concierge, il va revenir et prendre ma valise et partir. C'est des exemples, tu vois, mais tu peux les multiplier plein de fois.
Donc finalement, 3 ans après le début de ta thèse, tu publies ton premier ouvrage, donc qui s'appelle « Le 25 juin 1976 en Pologne ».
Ouais.
Travailleurs contre capital. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de cette journée? C'est pas du tout connu.
Il y a eu un commencement de grève générale en Pologne et le syndicat Solidarité a tout fait pour stopper ce mouvement.
En 1976?
En 1976.
Et du coup, ce qui s'est passé en 80-82, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est pareil parce que le Valéza, le leader de Solidarité, en réalité, il passait pas sur les chantiers. À la suite de 71, s'est constitué un organisme plus ou moins intellectuel, un peu ouvrier, qui s'appelait le Corps. Il était envoyé par ça pour prendre possession du comité de grève. Il y a eu toute une manipulation pour contrôler la grève.
Voilà. Et du coup, ce qui a fait que finalement le mouvement ouvrier polonais a été...
Il n'y a plus d'intervention russe parce que précisément... Jaruzelski était assez habile pour contrôler le mouvement, l'empêcher qu'il déborde comme en Tchécoslovaquie.
D'accord.
Ou en Hongrie.
Ouais, donc finalement, il n'y a même pas eu besoin de passer par l'étape de 1968.
Oui, exactement. Avec la complicité de Solidarité.
D'accord. Ça, c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'en général, ça apparaît comme les héros.
Ça montre le rôle du syndicat, d'ailleurs.
Bien sûr. Oui, ça montre. Donc finalement, une révolution avortée à chaque fois à cause du syndicat Solidarité, en complicité plus ou moins forte avec le pouvoir polonais, lui-même au service de l'URSS.
Oui. Ça explique que ça s'est déroulé pacifiquement en Pologne, alors qu'en Hongrie ou en Tchécoslovaquie, ça a été réprimé par les chars russes.
Et après, tu as écrit aussi, entre ces deux livres, un livre sur les luttes de classe dans l'Espagne post-franquiste. Est-ce que tu peux en dire un mot?
Alors, à la mort de Franco, il faut dire que les démocraties occidentales avaient préparé la transition. D'une certaine façon, une transition vers une monarchie. Et seulement pendant une certaine période, il y a eu une sorte de vide politique qu'il fallait combler très rapidement. Mais néanmoins, s'est développé dans cette période-là des organismes autonomes.
Et donc, oui, et c'est une période du coup d'intense lutte sociale autonome.
En gros, c'est ça le schéma.
Et du coup, à un moment, ces luttes se sont épuisées. Pourquoi?
Parce que le pouvoir se mettait en place et se structurait.
Et le coup de grâce, c'est 82.
Avec les syndicats officiels qui prenaient peu à peu de l'importance.
Et ensuite, donc dans ton dernier livre, tu parles de la grève des mineurs de 1984-85, qui est un épisode assez connu. Quelle est l'originalité de ton approche sur cet événement?
Alors, l'idée, c'est que Thatcher aurait écrasé les syndicats. Or ça, à mon avis, c'est complètement faux. Avant Thatcher, les syndicats ne contrôlaient pas les luttes. Il y avait tout un mouvement de base qui est original en Angleterre, qui a né dans la guerre de 14, le mouvement Shop Steward, qui fait que le mouvement de base est beaucoup plus important dans le contrôle social que les syndicats eux-mêmes, que le trade union, le syndicat eux-mêmes, s'il n'y en a qu'un. Toujours est-il que Thatcher n'a pas attaqué, elle est arrivée au pouvoir en 79, et ça a mis 5 ans avant qu'elle attaque les mineurs. Elle a mis en place un système de contrôle des grèves, pas de contrôle des syndicats, de contrôle des grèves sauvages. On ne peut pas même pas parler de grève sauvage, il n'y a pas de réglementation. Elle introduit une réglementation. Ce qu'elle a introduit, c'est le fait que si ces règles ne sont pas observées, le syndicat qui les enfreint peut être pénalement responsable. Il se voit confisquer son pognon. Donc, il y a quelques syndicats qui, dans cette période 79-84, s'y sont frottés. Ils se sont vus confisquer leurs avoirs. Alors, le leader du syndicat des mineurs, le NUM, Scargill, a pensé qu'il pouvait échapper à ça en planquant le pognon dans des paradis fiscaux. C'est une connerie. Il aurait bien dû savoir qu'un gouvernement peut toujours trouver la trace de pognon dans les paradis fiscaux. S'ils ne le font pas, c'est qu'il y a certains dirigeants qui ont intérêt à ce qu'on ne trouve pas. Toujours est-il, quand la grève des mineurs s'est amorcée, qui ne respectait pas la réglementation, Thatcher a attaqué le syndicat des mineurs pour faire interdire le truc. Et elle a trouvé le pognon. Alors, donc, le syndicat s'est trouvé démuni par rapport à un soutien éventuel de la grève. Bon, mais ça, c'est qu'un aspect du problème. C'est que Scargill était du PC, c'était un bureaucrate absolu, il ne faisait confiance que dans la hiérarchie de son appareil. Mais il y a eu un immense soutien populaire à la grève des mineurs. Seulement, Scargill et les dirigeants du syndicat des mineurs ont tout fait pour empêcher qu'il y ait un contact entre les comités de base qui existent un peu partout, qui voulaient ce soutien direct avec les mineurs, à la fois financier, direct, et lui a coupé complètement, fait tout pour qu'il n'y ait pas, au contraire, organisé une stratégie quasi militaire de résistance. Mais sous cet angle-là, c'était perdu d'avance. Parce que face à la police, sauf si tu as un soutien énorme, il y a un exemple qui est venu plus tard, c'est à propos de la poll tax, où il y a eu un mouvement général complètement incontrôlé, parce que c'était un mouvement qui échappait à toutes les structures politiques et syndicales, et Thatcher a dû céder, parce qu'il y avait une telle extension et puis un tel mouvement d'initiative populaire qu'elle a dû céder. Ça aurait pu être la même chose dans la grève des mineurs. Mais la bureaucratie du syndicat s'est opposée à ça en engageant des batailles qui étaient perdues d'avance, des batailles rangées même pratiquement avec les mineurs, ce qui a fait que le soutien populaire n'a pas pu s'exprimer directement. Alors que s'il était exprimé directement, d'ailleurs, la fin de la poll tax, c'était le départ de Thatcher, c'était son échec politique. Et donc la grève des mineurs, elle a pu triompher. Elle a mis tout le paquet qu'il fallait pour ça, mais néanmoins, je crois que cette coupure qui était l'œuvre de la bureaucratie syndicale, ils ont creusé leur propre tombe d'une certaine façon.
Mais voilà. C'est intéressant comme explication alternative.
Alors qu'on présente Thatcher a détruit les syndicats, c'est pas vrai, ils existent toujours. Simplement, ils doivent suivre les règles. Et c'est dirigé contre la base, contre les grèves sauvages. Il y a eu même des exemples plus récemment où il y avait des grèves sauvages dans les postes, ils ont condamné le syndicat pour ne pas avoir su discipliner ses membres.
Ça rejoint la thèse, finalement, des syndicats comme co-gestionnaires du capitalisme.
Exactement, exactement, oui.
Et où, finalement, là, Thatcher a forcé les syndicats à avoir ce rôle.
Oui, exactement. C'est-à-dire, avant, ils ne pouvaient pas jouer ce rôle, parce que la base leur échappait. C'est le mouvement Shop Steward était un mouvement qui était né spontanément, sur lequel les bureaucraties syndicales n'avaient pas de contrôle.
Et justement, finalement, vous avez poursuivi cette analyse avec Échanger Mouvement jusqu'à aujourd'hui par de nombreuses brochures qu'on peut trouver sur votre site d'ailleurs, qui sont très intéressantes d'ailleurs. Et notamment sur le mouvement des banlieues en 2005, mais aussi sur les grèves de 95, etc. Voilà, sur mondialisme.org, qu'on mettra en lien. Merci.
Sans doute, L'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.